Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Avec Jérôme Florin.
Il est 7h49. Jérôme Florin, vous recevez ce matin Benoît Hamon, député des Yvelines et candidat à la primaire de la gauche.
Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour Jérôme Florin.
Est-ce que vous saluez ce matin le rôle de Vladimir Poutine qui vient d'obtenir la mise en place d'un cessez-le-feu en Syrie, grâce à un accord avec la Turquie d'ailleurs?
C'est une bonne nouvelle qu'il y ait un cessez-le-feu. Je crois que toutes les parties se réjouissent aujourd'hui que les armes se taisent et qu'on puisse envisager une solution politique.
Le constat est là, aujourd'hui, Vladimir Poutine est le seul à être en capacité d'imposer aujourd'hui la paix en Syrie.
À quel prix ? Le massacre de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, il faudra s'en souvenir à Alep. Et il faudra se souvenir qu'il y a des responsabilités éminentes dans ces massacres, évidemment celles du régime de Bachar el-Assad, mais soutenues en cela par la Russie. Cela étant dit, les armes se taisent, elles excluent, je rappelle, le cessez-le-feu Daesh, Al-Nusra et toutes les forces autour de l'État islamique. Donc ça veut dire que des combats vont se poursuivre. Mais cela étant dit, je me réjouis qu'un cessez-le-feu soit prononcé dès lors qu'on peut commencer sérieusement, efficacement, à envisager une solution politique.
Et est-ce qu'il faudra parler avec Bachar el-Assad ?
Je ne vois pas de solution politique avec Bachar el-Assad. Est-ce que ça veut dire que ça exclura tout membre du régime ? Sans doute pas. Il faudra sans doute tenir compte de cette partie-là au conflit, mais je n'imagine pas qu'on puisse avoir une Syrie avec Bachar el-Assad après la guerre, c'est-à-dire un homme qui aura massacré des dizaines de milliers de ses compatriotes avec des armes chimiques, avec des bombardements d'hôpitaux, avec des bombardements de convois humanitaires, tout ça est inadmissible.
Un mot de Jacqueline Sauvage, Benoît Hamon, puisqu'il y a quelques jours, vous aviez écrit à François Hollande, vous lui demandiez de faire usage de son droit de grâce total, il l'a fait, un peu tard, disent certains. Est-ce que c'est pas la victoire de la dictature, de l'émotion ?
Écoutez, c'est une décision qui n'est pas simple pour le président de la République, parce qu'il sait qu'elle sera évidemment critiquée au regard du souhait des uns et des autres. Et je crois que c'est un souhait plutôt sain que l'on sépare ce qui relève de la justice et ce qui relève du politique. Cela étant dit, le symbole de Jacqueline Sauvage, c'est une femme battue pendant des années et des années, et qui a décidé de se libérer de cette violence-là en commettant l'irréparable, le meurtre de son conjoint. Mais au-delà de cela, elle a fait de la prison. Elle a payé. Et je crois qu'au-delà de l'émotion que cela a suscité, il y a une décision qui a été mûrie par le président de la République, qui a pris le temps de la prendre. Et je crois qu'elle est juste et humaine.
Mais les juges aussi avaient mûri leur réflexion. Et d'après eux, elle n'était pas libérable, Jacqueline Sauvage.
C'était le point de vue des juges. Le président de la République dispose d'un droit, celui de gracier Jacqueline Sauvage ou quiconque il juge graciable, si je peux m'exprimer comme cela. Et il a exercé ce droit.
Ce n'est pas paradoxal de demander au président d'user de son droit de grâce et en même temps de vouloir mettre fin à la monarchie républicaine, puisque vous plaidez pour une 6e République.
Je plaide pour une 6e République. Le droit de grâce, il existe, et dans l'espèce, je jugeais quand on m'a demandé d'écrire au président de la République et quand son comité de soutien à Jacqueline Sauvage s'est mobilisé et m'a contacté, je jugeais que, en l'espèce, ce droit de grâce existant, elle méritait d'être graciée. Cela étant dit, je crois qu'à l'avenir, pour ce qui relève du fonctionnement de nos institutions, plus la frontière sera étanche entre le judiciaire et le politique, mieux ce sera.
La 6e République, c'est aussi un vœu d'Arnaud Montebourg. Mmh. Ce n'est pas le seul point commun entre vous. Vous voulez tous les deux abroger la loi travail.
Oui, parce qu'elle n'est pas bonne. D'abord parce qu'elle va encourager des accords qui vont permettre de diminuer le tarif des heures supplémentaires. Tout le monde parle de travail, mais cette loi travail va faire baisser les salaires, puisque le tarif des heures supplémentaires va baisser. On va faciliter par la loi travail le licenciement. Aujourd'hui, on va mettre en œuvre un droit, le droit à la déconnexion par la loi travail, qui est sans doute positif, mais qui ne souffrira d'aucune sanction s'il n'est pas réellement mis en œuvre dans les entreprises.
Qui est un peu flou d'ailleurs.
Voilà, donc je pense que cette loi n'est pas bonne pour les salariés. Pourquoi ? Parce que finalement, elle n'améliore pas leur dignité, elle n'améliore pas leur situation et tout simplement leur pouvoir d'achat.
Alors c'est le grand projet de votre campagne, de votre programme, la mise en place d'un revenu universel. Mmh. Combien et financé comment ?
D'abord, ça ne s'explique pas en deux secondes. J'ai écouté votre chroniqueur tout à l'heure évoquer un paradis numérique. C'est sympathique. Mmh. Il existe peut-être dans certains endroits. Mmh. Mais beaucoup d'études aujourd'hui nous disent que l'impact de la révolution numérique va se traduire par une raréfaction du travail et une suppression de milliers d'emplois, sinon des centaines de milliers. Et face à cette raréfaction du travail, ce qui se pose comme question, c'est le partage du travail. De quelle façon l'organisons-nous, le partageons-nous ? Aujourd'hui, on a des gens qui travaillent, mais ne sont pas forcément toujours heureux de leur travail, et puis d'autres qui ne travaillent pas. Et je crois qu'aujourd'hui, cette question question de la maîtrise de son travail, de l'autonomie que l'on retrouve par rapport à son travail, et donc de la réduction du temps de travail, elle doit s'accompagner d'une nouvelle protection sociale.
Ça, c'est le constat, mais
oui,
combien...
elle doit s'accompagner d'une nouvelle protection sociale. Et celle-là, c'est le revenu universel. Le revenu universel qui accompagnera toute personne, vous, moi, qui que ce soit, qui, salarié, retraité, aura ce revenu universel en plus. De combien pourrait-il être en première instance, en quelque sorte? Moi, je proposerais que le RSA socle, qui est aujourd'hui autour de 535 euros, soit revalorisé de 10%, de façon à ce qu'il atteigne le montant de 600 euros. De façon à ce que déjà tous les titulaires des minima sociaux voient leur minimum pour vivre augmenter. Je propose qu'il soit distribué automatiquement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand on est pauvre, il faut qu'on demande le RSA pour l'avoir. Je veux qu'il soit distribué automatiquement pour qu'on évite les non-recours. Et ensuite, la première étape de ce revenu universel sera de le distribuer aux 18-25 ans. De façon à ce que dans leur insertion sur le marché du travail, eux qui connaîtront moins le salariat que leurs parents, eux qui connaîtront beaucoup plus de rupture, dispose de cette protection pour pouvoir justement réussir leur intégration sur le marché du travail.
Donc pour tout ça, il va falloir augmenter les impôts?
Non, ou alors créer des supplémentaires, ou changer l'assiette des prélèvements.
Non,
on va changer l'assiette des prélèvements. Aujourd'hui, par exemple, regardez, les cotisations sociales patronales, elles sont prélevées en fonction de quoi? Du travail. Du nombre de salariés d'RTL, par exemple. Si demain, on remplace des journalistes par un algorithme qui parle à votre place, admettons, ce n'est pas encore le cas, mais je ne vous le souhaite pas, RTL fera toujours autant d'argent, mais aura diminué le montant de ses cotisations sociales patronales. Moi, je souhaite que les cotisations sociales soient assises sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse créée, et non plus le nombre de salariés. Bien ainsi, on aura des ressources supplémentaires pour financer quoi ? La protection sociale des individus, ce qui nous intéresse prioritairement.
Il y a un sujet sur lequel on ne vous entend pas beaucoup, Benoît Hamon, c'est celui de la sécurité. Alors, j'ai bien revu votre discours de gymnase Japy, vous en parlez quelques minutes, et puis vous passez à autre chose. Contre le terrorisme, est-ce qu'il faut augmenter le nombre de policiers? Est-ce que...
Il faut écouter les concurrents.
D'accord.
Ce qu'ils comprennent, ce qui est difficile, hein, mais je vais donc répéter ce que j'ai dit chez vos concurrents. On fait des choix dans ces expressions. Alors je vais vous en parler, si vous le voulez bien.
Vous allez augmenter le nombre de policiers?
Moi, je considère aujourd'hui que la priorité, c'est la police de proximité. Ouais. Donc, d'augmenter le nombre de policiers pour qu'il y en ait davantage sur le terrain, qui dans des déambulations, dans une activité au quotidien, une forme de police à froid, et non pas à chaud, qui interpelle, qui arrête. C'est la police qui, au jour le jour, qui intervient. Mais moi, je souhaite qu'il y ait une police à froid, qui était une police qui a supprimé Nicolas Sarkozy, très précieuse, parce qu'elle permet de détecter les signaux faibles dans un quartier, dans un logement, dans une famille, un jeune qui commence à déraper.
Au-delà de ça, Benoît Hamon, il y a une menace. Quand on voit
le parcours
d'Anis Amri, par exemple, quand on voit, il est passé, donc le terroriste de Berlin, il s'est promené dans les gares allemandes, française, italienne, il y a un truc qui tombe baron là quand même.
Incontestablement, en tout cas il a pu circuler. La question c'est, que voulez-vous faire? Des murs aux frontières entre l'Allemagne et la France? Entre frontières entre la France et l'Italie? La réalité c'est que nous sommes dans l'Union Européenne, que la circulation elle est permise, surtout pour un ressortissant de l'Union Européenne ou pour une personne qui a un titre de séjour. Donc c'est pas facile d'arrêter ces personnes, incontestablement. Et alors, il y a aujourd'hui des champions, notamment en élection présidentielle, qui vont vous dire qu'avec eux, on aurait évidemment arrêté ce monsieur, comme on aurait sans doute empêché les attentats de Nice, comme on aurait sans doute empêché les attentats du Bataclan. La réalité c'est que c'est difficile aujourd'hui, et qu'on est face à une menace permanente qui suppose de disposer du renseignement technologique, des hommes en nombre suffisant pour exploiter ce renseignement technologique et davantage de renseignements humains. Et l'autre aspect que j'aurais voulu évoquer d'un mot, au-delà de la police de proximité, c'est le renseignement territorial. Savez-vous, je pense que ce renseignement-là, là encore, qui a été remis en cause, les anciens renseignements généraux, il est précieux. Et il faudra renforcer les moyens du renseignement territorial, parce qu'on a besoin d'hommes et pas simplement de technologie.
Les derniers vœux de François Hollande demain, Benoît Hamon, vous en attendez quelque chose? Vous les regarderez?
Évidemment que je les regarderai.
Qu'est-ce que vous en attendez? Un mea culpa?
Non, évidemment que non. J'attends du président de la République qu'il dise la manière dont il conçoit l'année à venir, qu'il tire le bilan de l'année 2016. Il est libre des mots qu'il choisira. Ce sont ses derniers vœux lors de ce quinquennat. Je pense qu'il aura à cœur, dès lors qu'il a décidé de ne pas se représenter, de dire aussi sa part de vérité et des mots importants pour les années qui viennent. Lui qui est attaché à l'intérêt général, à la nation et aux Français.
Merci beaucoup Benoît Hamon, candidat à la primaire de la gauche. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée.